Salam alaikum, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast pour t'inspirer des acteurs musulmans de notre communauté, apprendre de leurs expériences et développer ton potentiel.
En tant que travailleur humanitaire, on a ce qu'on appelle le droit de retrait. C'est-à-dire que quand on est déployé sur une zone et qu'on considère que c'est trop dangereux, on a le droit de se retirer. Sauf que c'est techniquement, logistiquement, c'est pas toujours possible. Si on se retrouve au milieu, au fin fond d'un village, et qu'en fait, la seule façon d'aller dans ce village, c'est l'hélicoptère des Nations Unies, qui passe une fois ou deux fois par semaine. Donc, il faut attendre le jour, le prochain départ, qui n'est pas forcément immédiat, et qu'il n'y a qu'une seule route qui te ramène vers la capitale Bangui, bah, ça devient très difficile d'exercer ce droit de retrait. Et donc, oui, il y a eu des moments où j'ai eu des craintes, notamment en Centrafrique.
Tu peux suivre les dernières informations du podcast en t'abonnant à la newsletter, au compte Instagram Muslim Makers et en rejoignant le groupe Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute.
Salam alaikum wa rahmatullah, Hajar.
Alaykoum assalam wa rahmatullah wa barakatuh, Abdelrahman.
Comment vas-tu?
Alhamdulillah, ça va bien. Et toi?
Ça va très bien. Alors, il fait quelle température dans ta ville?
Je ne sais pas quelle température il fait, je ne suis pas encore sortie, mais il fait gris. Donc, probablement autour du 8-9 degrés.
Pareil où je suis, donc, mais bon, d'ici à ce que l'épisode sorte, je pense qu'il fera bien meilleur. Hadjar, je suis très heureux de t'accueillir dans mon podcast Muslim Makers. On a pu parler il y a quelques semaines, échanger sur un peu ce que tu faisais, voir un peu de quoi on allait parler. Et je pense que ça va être très intéressant parce que c'est quelque chose que je découvre avec toi, le domaine dans lequel tu travailles. Donc pour commencer, je te propose de nous faire une petite présentation de qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais.
Inch'Allah. Merci encore Abdelrahman de l'invitation. Alors comme tu l'as mentionné, mon nom c'est Hajar. Je suis d'origine tunisienne, donc née en France, dans la région du Var, à Toulon pour être précise. J'ai passé plus ou moins mon enfance et une partie de mon adolescence en France. Et à l'âge de 23 ans, je me suis expatriée aux États-Unis. Et donc, j'ai passé 12 années de ma vie avant de revenir vers l'Europe sans vouloir revenir en France pour des raisons qu'on pourra peut-être évoquer durant cette conversation. Et donc, ça fait à peu près 2 ans que je vis à La Haye, aux Pays-Bas, ce qui explique le temps gris et nuageux. Est typique du temps, du climat hollandais. Par rapport à mon parcours, j'ai commencé une carrière de journaliste en France, notamment de reporter et présentatrice radio. J'ai fait ça pendant à peu près, je dirais, 10 années. Ensuite, j'ai combiné avec le web, l'actualité du web en ligne, notamment quand je suis partie aux États-Unis. Et puis, donc après 12 ans, 11-12 ans, je dirais, dans le secteur de l'actualité, j'ai basculé vers le secteur de l'humanitaire international. Et donc, c'est à l'époque où j'étais aux États-Unis, j'avais commencé à travailler sur la crise des réfugiés syriens, j'avais été en Jordanie, donc j'avais fait une couverture pendant un mois. Et donc, à travers mes rencontres dans les camps de réfugiés, et j'ai été véritablement touchée. Et je pense que quelque chose s'est passé intérieurement où je voulais faire beaucoup plus que simplement écrire des articles ou rapporter leurs histoires, mais peut-être faire partie d'une équipe ou d'une organisation, d'une institution qui aussi servait ces populations. Et donc, j'ai fait cette transition, ça m'a pris 2 années, et puis j'ai rejoint donc le secteur de l'aide humanitaire. J'étais basée à Washington avec pas mal de déplacements sur le terrain. Ensuite, donc, je voulais une véritable expérience en immersion, et là, je suis partie en Afrique de l'Ouest, au Sénégal pour être précise, en sachant qu'à ce moment-là, j'avais accepté un travail, ce qu'on appelle une conseillère communication et médias volante, c'est-à-dire que je tournais, en fait, sur plusieurs pays, à peu près 5 pays. Donc, j'étais tout le temps en déplacement sur des zones de conflit essentiellement, avec des populations de déplacés. Ça a été une expérience extrêmement enrichissante, humainement, Et professionnellement aussi, j'ai grandi énormément. Je pense que c'est la période où j'ai grandi professionnellement très rapidement à ce moment-là, en l'espace de 2 années. Mais c'est aussi une période qui m'a demandé de sacrifier énormément sur le plan personnel. Et donc voilà, ensuite je suis revenue faire les États-Unis et j'ai continué mon parcours dans le secteur humanitaire toujours. Et à l'heure actuelle, je travaille pour une organisation, une ONG américaine qui se concentre sur la protection des populations civiles dans les zones de conflit. Et donc c'est véritablement d'actualité quand on voit ce qui se passe à Gaza, quand on voit ce qui se passe au Soudan, en Éthiopie, en République démocratique du Congo. La protection des populations civiles, ça a été un sujet assez négligé pendant des années parce que c'est la responsabilité des pays et des acteurs armés. Mais je dirais grâce peut-être à l'émergence de l'information, la démocratisation de l'information via l'Internet, les réseaux sociaux, etc., on est en mesure de voir les images et de voir l'impact que ça a quand les populations ne sont pas protégées. Et donc c'est un sujet qui est auquel les pays, les gouvernements, les institutions s'intéressent de plus en plus.
Merci beaucoup pour cette présentation super complète. Mais on va revenir sur plein de petits points parce que c'est tellement intéressant. Donc toi, tu as commencé ta carrière, tu disais, dans les médias. Tu as fait des études dans le domaine. Et enfin, première question, est-ce que tu as fait des études dans le domaine? Et est-ce que c'était une passion? Tu savais déjà que tu voulais faire ça depuis un moment?
Oui, je savais que je voulais être dans le domaine du journalisme et en fait, je pense que j'étais en quatrième à l'époque au collège quand j'avais commencé à faire cette décision. C'est une époque où déjà, on t'oriente un petit peu, où tu as des conversations avec des conseillers d'orientation, etc. Et c'est vrai que la façon dont j'avais déterminé ce plan de carrière, c'était, je suis très curieuse, donc pour moi, il fallait suivre une carrière ou avoir un travail qui me permettait d'apprendre au quotidien. Mais aussi transmettre ce savoir. Je voulais voyager aussi et je voulais aider à la fois. Donc à ce moment-là, j'avais déterminé que je voulais être reporter de guerre. Je n'ai pas été reporter de guerre, donc j'ai été reporter tout court, en sachant que je couvrais de façon régulière les conflits, mais je n'étais pas déployée sur les zones de conflit. Et effectivement, en fait, j'avais commencé ma carrière en radio en tant que pigiste en 2006, sur la guerre entre le Liban et Israël, si je ne me trompe pas, quand il y avait eu un soldat israélien qui avait été enlevé par le Hezbollah. Et donc, ça avait mené à une opération durant l'été 2006. Donc, ça a été mon premier job en tant que reporter pigiste à Paris. J'ai fait un parcours, un cursus universitaire assez simple, je dirais, qui était, c'était à l'Université de Nice en information et communication, avec une option journalisme et médias. Et ensuite, j'ai essayé de passer énormément de concours pour accéder aux grandes écoles. À l'époque, je ne sais pas à l'heure actuelle ce qu'il en est, mais en France, il y avait 12 écoles qui étaient reconnues pour la profession de journalisme. Donc, ces concours déjà avaient un coût que mes parents ne pouvaient pas de façon régulière subventionner, financer, je dirais. Donc j'en ai passé deux auxquels j'ai échoué et je me suis dit bah c'est pas grave, je vais quand même taper aux portes de rédaction et puis on verra. Je vais commencer avec des stages et je vais essayer d'apprendre sur le tas et c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai commencé stagiaire et puis les opportunités se sont présentées. J'étais véritablement passionnée et déterminée. J'ai toujours eu cette capacité d'apprendre assez rapidement, alhamdoulillah. Et donc je suis très curieuse, donc en fait j'ai toujours été une bosseuse, donc alhamdoulillah je pense que ça m'a véritablement aidée. Alors effectivement j'avais pas le réseau au début, c'est ce qu'on nous donne en fait quand on va dans ces grandes écoles, c'est le réseau, donc je l'avais pas, donc j'ai dû le créer au fur et à mesure, mais je pense que je m'en suis plutôt bien sortie et j'avoue que je pense qu'on a une meilleure formation quand on est formé sur le tas avec de réels professionnels. plutôt que de passer par les grandes écoles. Après, comme je n'y suis pas passée, je ne sais pas, mais en tout cas, de ce que j'ai pu voir dans la profession, passer par les grandes écoles n'est pas une garantie de succès. Ça ne veut pas dire que parce que tu passes par la grande école, que quand tu débarques à la rédaction, je me souviens avoir formé des stagiaires qui sortaient de ces grandes écoles, et ça n'a pas toujours été évident. Donc, je pense que c'est véritablement, c'est un métier qui peut s'apprendre sur le tas. Encore une fois, c'était au début des années 2000. Je ne sais pas ce qu'il en est à l'heure actuelle pour la profession.
Oui, ok. Bon, c'est vrai que le métier de journaliste, j'en ai une image d'un métier très fermé où tu as besoin de beaucoup de réseaux, de choses comme ça. Sinon, c'est assez fermé, donc c'est assez impressionnant que tu aies réussi à rentrer sans passer par. Sans avoir de réseau et sans être passé par le parcours classique. Donc, tu as fait ça quelques années avant d'aller aux États-Unis.
C'est ça. En France, j'ai travaillé en tant que journaliste pendant à peu près 5 ans, donc en radio essentiellement. C'était essentiellement de la couverture d'actualités internationales avec un focus sur l'actualité, notamment du Proche et Moyen-Orient et la diplomatie américaine, puisqu'ils ont une grande présence dans la région. Avec aussi des sujets un petit peu plus nationaux, comme l'immigration, la diversité, etc. en France. Et ensuite, je suis partie aux États-Unis et là, j'ai continué dans le journalisme.
Pourquoi tu voulais
Sauf
partir aux États-Unis?
que c'était véritablement, ben justement, parce que je me concentrais sur l'actualité internationale, j'estimais que mon niveau d'anglais était très insuffisant pour véritablement comprendre ce que les médias internationaux, et notamment anglophones, l'information rapportée par ces médias. L'anglais que j'avais à l'époque, c'était un anglais de base. C'est l'anglais qu'on nous apprenait au collège et au lycée, qui, honnêtement, quand je me suis expatriée, bah, ne m'a pas servi du tout. Bon, ça, c'est le problème de l'éducation en France. Il y a des choses à
Ouais,
redire.
sur les langues surtout.
Exactement. Et donc, quand je suis partie aux États-Unis, initialement, voilà, c'était véritablement pour apprendre l'anglais, pour en tout cas l'améliorer et véritablement pouvoir travailler pour être peut-être pas bilingue, mais au moins avoir suffisamment de connaissances pour pouvoir l'utiliser dans mon travail. Et puis finalement, ben, je suis restée aux États-Unis. Hein, et là, ben, j'ai commencé à faire des stages. Il a fallu que je reparte à zéro au niveau de la carrière, bien que j'étais déjà professionnelle avec carte de presse, etc. en France. Il a fallu que je reparte par la case stage aux États-Unis pendant quasiment un an sans être payée. Donc ça a été un sacrifice que j'ai accepté de faire pour pouvoir remonter l'échelle à nouveau aux États-Unis.
D'accord. Donc, comment ça s'est passé là-bas par rapport à ton expérience en France? Parce qu'en France aussi, tu partais de rien. Là-bas, tu partais de rien, plus la barrière de la langue. Tu as trouvé ça plus facile en France ou aux États-Unis?
Je dirais que ce sont deux expériences différentes. En tout cas, aux États-Unis, quelque chose qui m'a véritablement marqué, c'est que pour le coup, alors j'avoue, quand j'étais partie, il y avait un peu cette curiosité sur le rêve américain. Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une vérité, etc. Il y a véritablement une ouverture d'esprit au niveau de l'Amérique. En tout cas, moi, j'étais à New York, donc une diversité qui est acceptée. Et je pense que le fait que je venais d'un autre pays avec une vision différente, ça a été véritablement apprécié par mes employeurs. J'avais aussi cet atout de la langue. Même si j'étais là-bas essentiellement pour apprendre à parler l'anglais, et mon anglais à l'époque encore était véritablement insuffisant, en tout cas, j'avais cet avantage de pouvoir parler le français et de pouvoir parler l'arabe, ce qui voulait dire que j'étais aussi en mesure de pouvoir couvrir certains sujets qui venaient de ces régions. Et si je me souviens bien, au début de mes stages en rédaction à New York, ça coïncidait aussi avec les débuts du printemps arabe. Donc, et c'était un sujet qui était aussi largement couvert et suivi par les médias américains, et en tout cas la rédaction où j'étais. Et donc, bah, du coup, en fait, je leur ai proposé, bah, je peux couvrir. et je peux me concentrer sur ce qui se passe en Tunisie, au Maroc, en Égypte, etc. Et donc ça, je pense que ça m'a servi aussi. Donc en fait, il fallait aussi que je me positionne et que je trouve, que je saisisse des moments et que comment dire, je couvre un petit peu les gaps qu'ils avaient
Ouais.
dans leur couverture.
Ouais. Et quand tu as fait ça, tu étais toute seule vraiment ou tu connaissais déjà quelques personnes qui t'ont un peu accompagnée? Non.
Je n'avais aucun réseau quand je suis arrivée
Ouais.
à...
Donc tu as pris un appart, une coloc ou je sais pas, et
C'est
tu t'es
ouais,
débrouillé.
pour le coup, ouais, la similarité avec la France, c'est-à-dire commencer ma carrière de journaliste et avoir aucun réseau, ça a été la même chose aux États-Unis. Je n'avais pas du tout de réseau. Et par contre, ce que je faisais, c'est que on observe, on regarde et on voit comment font les autres et on essaie d'apprendre. Donc, il faut avoir assez d'humilité, en fait. Il faut être patient. Et le networking aux États-Unis, c'est quelque chose qui est, voilà, c'est comme ça que les gens se forment, c'est comme ça que les gens créent leur réseau. Et donc, je dirais de façon très régulière, en fin de journée, après une journée de travail, il y avait encore des événements, des networking, etc. Donc, j'essayais d'y aller pour essayer de créer ce réseau et de connaître un maximum de personnes qui pouvait me servir à un moment ou à un autre, c'est la réalité du monde du travail, sur le marché américain.
D'accord. Donc, le travail était assez similaire à ce que tu faisais en France en termes de focus. C'était les zones de guerre, enfin, printemps arabe, donc c'était un peu plus tard. Mais c'était plus ou moins les mêmes tâches que tu faisais.
Oui, sauf que là, j'ai basculé sur le web, donc il n'y avait plus la diffusion radio, reportage radio. Donc là,
D'accord.
beaucoup plus de l'écriture, ce qui me convenait, puisque en fait, je pense que, et surtout, je pense qu'il y a pas mal qui se reconnaîtront, quand on apprend une langue, c'est plus facile de l'écrire que de la parler de façon spontanée. Et donc, pour moi, j'étais pas encore à l'aise suffisamment à l'oral. Et puis, il y a eu toujours le petit accent, etc. Même si pour eux, ça ne leur posait pas de problème, mais moi, ça me posait problème. Donc, l'écriture me convenait. Et donc, ça a été essentiellement de l'écriture en ligne. Donc, la production d'articles et de reportages en ligne, avec de temps à autre de la production de vidéos aussi. Et en termes de couverture de sujets, alors oui, alors il y a eu, j'ai eu, j'ai couvert plusieurs sujets. Donc oui, il y a eu le printemps arabe. Il y a eu aussi, une des publications pour laquelle je travaillais se concentrait notamment sur le rôle des femmes et des genres. Et il y a eu aussi, j'avais aussi écrit pas mal pour, à l'époque, une publication qui se concentrait notamment sur la communauté musulmane aux États-Unis. Donc là, je me souviens que c'était une époque aussi qui m'a permis de me connecter à la communauté musulmane aux États-Unis. Donc j'ai essayé un petit peu, je ne dirais pas de toucher à tout, mais de voir un petit peu où je pouvais faire mon petit nid et véritablement me... progresser. Encore une fois, ce que j'ai réalisé assez rapidement, c'est que il fallait que j'identifie, c'est pour ça qu'il fallait beaucoup observer, il fallait que j'identifie là les faiblesses des rédactions et que j'essaie de leur proposer une solution vis-à-vis de ces faiblesses, en fait, tant que c'était dans mes capacités.
Très bien. Tu restais combien de temps là-bas, aux États-Unis?
Je suis restée 12 années.
12 ans, ouais. Donc à Washington, à New York, puis à Washington.
Ouais, voilà, j'ai fait les deux. J'ai démarré avec New York pendant plusieurs années, et ensuite Washington, et ensuite je suis revenue vers New York.
D'accord. Ton rêve quand tu étais plus jeune, c'était de travailler en tant que reporter de guerre. Est-ce que à ce moment-là, quand tu travaillais sur tous ces sujets-là, ça se rapprochait de ce que tu t'imaginais, ce que tu voulais faire plus tard, ou bien pas totalement?
Non, il y a une véritable différence parce que ça, je l'ai réalisé plus tard, quand j'ai commencé à être déployée sur les zones de conflit, que être reporter de guerre, il y a véritablement ce besoin d'être au contact de la population. D'écrire une situation de guerre à travers des dépêches AFP ou Reuters, Ça n'a rien à voir avec être véritablement là où se passent les choses. Y a des choses qui ne sont pas racontées, il y a des choses qui ne sont pas vues, il y a des voix qui ne sont pas entendues. Donc, il y a véritablement une différence. Non, je dirais que c'était pas. Je pense que les deux ne sont pas comparables. Mais en tout cas, ce que j'ai fait, j'ai beaucoup, même si je n'ai pas été reporter de guerre, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié tout le travail que j'ai fait. J'ai travaillé sur des sujets qui m'intéressaient, qui me fascinaient. Et pour être très honnête, la raison pour laquelle j'ai quitté le monde du journalisme, encore une fois, c'est parce que je pensais que je pouvais toujours utiliser ces compétences de journaliste, mais les mettre au service d'une institution qui aussi sert les populations dans les zones de conflit et en difficulté. Et puis aussi, il y a eu un moment, et je pense que cette crise, elle est toujours, le monde du journalisme et des médias traverse toujours une crise financière. J'ai réalisé que c'était très difficile en fait pour les rédactions de financer les déplacements de correspondants à l'étranger, etc.
Ouais.
Et donc, j'ai compris que ça allait être beaucoup trop compliqué pour moi d'être déployée sur des terrains de conflit ou d'instabilité, et parce qu'il n'y avait pas les ressources qu'il fallait dans les rédactions.
Ouais. Donc quand tu as travaillé à New York et à Washington, c'était pour deux boîtes différentes, deux journaux différents, ou c'était quoi? C'était des journaux?
À New York, ça a été uniquement, mes 5 premières années à New York, ça a été uniquement du journalisme, du news. Et quand je suis à Washington, c'est là où j'ai basculé vers le secteur humanitaire. Donc,
D'accord.
en 2015, c'est là où j'ai arrêté de façon officielle mon activité de journaliste et que j'ai basculé vers le monde de l'humanitaire.
Et donc là, tu faisais des allers-retours dans des zones de guerre ou comment ça se passait?
En 2015, donc j'ai accepté ce job avec l'Organisation internationale pour les migrations, qui est une organisation onusienne. Et donc j'étais rattachée au bureau de Washington, qui est notamment un bureau de liaison avec le gouvernement américain, sachant que le gouvernement américain finance énormément de programmes à travers le monde, que ce soit des programmes humanitaires, des programmes de développement. Et autres. Donc c'était un bureau de liaison, mais juste encore une fois, de par certaines de mes compétences, notamment linguistiques, le français et l'arabe, j'ai eu l'opportunité d'être déployée vers des pays où justement il y avait un manque de ressources humaines avec ces compétences-là. Donc mon premier déploiement a été au Niger. Au Niger, ben, le français est parlé et ils avaient besoin de quelqu'un qui puisse aller mettre en place un programme de communication. Et là, pour le coup, c'était pas du conflit, c'était plus de la stabilité. De la stabilité, c'était une période électorale, etc. Donc ça a été mon premier déploiement au Niger et ça a été un déploiement où j'ai travaillé sur deux volets. Donc un volet création de un pro, créer un programme communication en anticipation d'élections présidentielles au Niger, et donc éviter de possibles événements d'instabilité, etc. Et le deuxième, c'était le sud du Niger, où il y avait l'insurrection de Boko Haram, avec là, par contre, des populations directement affectées par un conflit armé et des déplacements de population. Donc, ça a été mon premier déploiement, le Niger, et je dirais oui, c'est parce que j'étais spécialiste de la communication, mais aussi que je parlais le français. Je me souviens qu'à l'époque aussi, enfin, ça s'est venu un petit peu plus tard, ça a été un déplacement à Haïti. Et là encore, ça a été notamment l'atout de la langue française qui est parlée à Haïti, plus ma capacité de pouvoir couvrir de façon rapide et urgente des crises. Et là, c'était parce que l'OIM, l'Organisation internationale pour la migration, aussi couvre les désastres, donc les déplacements de population après des désastres et des catastrophes naturelles. Et donc là, il y avait eu un ouragan, etc. Donc oui, j'ai eu l'opportunité de faire pas mal de déplacements durant ces 2, 3 ans avec l'OIM. Et à ce moment-là, je voulais véritablement partir et véritablement être immersée dans un pays. Et ma préférence à l'époque, c'est vrai que c'était un pays plutôt du Moyen-Orient. Je voulais être déployée en Irak. Et puis l'opportunité s'est pas présentée pour des raisons variées. Mais encore une fois, ben, ensuite j'ai eu une opportunité en Afrique de l'Ouest avec une autre organisation et donc là j'ai décidé de partir.
D'accord. C'est dangereux tous ces voyages-là. Tu parles de Boko Haram, tout ça. C'était à quel point c'était dangereux? Ça ressemblait à quoi ces voyages humanitaires?
Les organisations avec lesquelles j'ai travaillé étaient très pointues sur la sécurité de leur staff. Donc, en fait, on ne nous envoie pas n'importe où sans avoir les précautions, etc. Donc, il y a véritablement une analyse de la situation sécuritaire avant de pouvoir voyager vers ces zones, etc. Et les plans peuvent changer d'une minute à l'autre et puis on peut décider de ne pas aller visiter cette communauté parce que c'est trop dangereux ou parce qu'on vient de recevoir des informations. Donc je dirais que les organisations avec lesquelles j'ai travaillé sont très pointues sur la sécurité. Après, effectivement, on opère dans des environnements où le risque zéro n'existe pas. Et on l'a vu au cours des dernières années, il y a eu énormément d'incidents sécuritaires et de décès de travailleurs humanitaires. Pour plusieurs raisons, et notamment parce que les acteurs humanitaires se retrouvent de plus en plus pris au piège par le jeu de la politisation de l'aide humanitaire. On le voit, on l'a vu à Gaza, on l'a vu en Syrie, on le voit sur de multiples contextes. Donc, il y a toujours un risque. Par contre, on est préparé. Il y a aussi une formation. On forme les travailleurs humanitaires qui vont être déployés sur des zones de conflit dangereuses à haute intensité. Sont formés pendant 3 jours, une semaine. Et en fait, ils sont formés, ils sont mis en condition réelle de possibles dangers, que ce soit du kidnapping, que ce soit des coups de feu. Enfin, des mines, etc. Et puis, donc, on nous apprend comment réagir à toutes ces situations. Donc, il y a tout un travail de fond qui est préparé. Mais encore une fois, ben, ça, c'est, il y a toujours la possibilité de le risque est là.
Ce genre de site de voyage, tu en as fait combien à peu près? Des dizaines, quelques-uns.
Ouais, non, des dizaines. Et
Ouais.
puis comme je disais, il y a eu pendant 2 ans, ça a été juste ça, en fait. Ça a été pendant 2 ans, c'était ce que je faisais à temps plein, en fait.
T'as dû vivre des choses émotionnellement, humainement incroyables pendant ces voyages-là. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué?
Le contact avec les populations est quelque chose qui nous marque constamment. Surtout si on fait si on fait ce travail par désir et souhait de faire changer les choses, en fait. Et donc, c'est au contact des populations, quand on écoute ce par quoi ils sont passés, ce qu'ils traversent. Je ne suis jamais restée indifférente. Alors, c'est vrai qu'au début, ça a été un petit peu difficile parce que je ne savais pas encore trop comment gérer mes émotions. Et je pense que ça, on ne nous l'apprend pas véritablement. Enfin, en termes de sécurité, on nous apprend ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais le côté émotionnel, c'est quelque chose de très personnel, en fait. Et donc, il est important de maintenir une certaine distance, mais trouver cet équilibre entre avoir une certaine distance, mais aussi ne pas être indifférent. Parce que c'est vrai que dans le secteur, il y a des gens qui ont passé 20 ans, 30 ans, et parfois, bah, ça devient normal. Et alhamdoulillah, j'ai pas atteint ce stade. Et je me suis toujours dit, si j'atteins ce stade, il va falloir que je me remette en question. Mais oui, il y a eu des choses qui sont difficiles, des histoires, des situations, des conditions de vie. Il y a eu des moments où ça a été un petit peu, où j'ai eu des moments de peur, oui, où j'ai eu peur, où je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir rentrer chez moi?
Tu as
Mais à
des
ce moment-là,
anecdotes qui viennent en tête?
je dirais que en Centrafrique, c'est vrai que ça a été un petit peu difficile parce que, en fait, en tant que travailleur humanitaire, on a ce qu'on appelle le droit de retrait. C'est-à-dire que quand on est déployé sur une zone et qu'on considère que c'est trop dangereux, on a le droit de se retirer. Sauf que c'est techniquement, logistiquement, c'est pas toujours possible. Si on se retrouve au milieu, au fin fond d'un village, et qu'en fait, la seule façon d'aller dans ce village, c'est l'hélicoptère des Nations Unies, qui passe une fois ou deux fois par semaine. Donc, il faut attendre le jour, le prochain départ, qui n'est pas forcément immédiat, et qu'il n'y a qu'une seule route qui te ramène vers la capitale Bangui, bah, ça devient très difficile d'exercer ce droit de retrait. Et donc, oui, il y a eu des moments où j'ai eu des craintes, notamment en Centrafrique, où j'ai eu des petites frayeurs. Je me souviens d'être arrivée dans ce village. Et après, il faut être aussi. C'est-à-dire qu'on travaille avec beaucoup d'équipes locales qui se fondent assez naturellement dans la communauté. Et ce n'était pas mon cas. Ce n'était pas mon cas. Donc, je devais passer une nuit dans un village et il n'y avait pas d'exit, en fait. Il n'y avait pas de moyen de sortie. Il y avait l'hélicoptère. Enfin, ce n'est pas moi qui gère les hélicoptères. Donc, il fallait attendre le prochain créneau. Et donc, c'était en fin de journée. Le chauffeur me dit à Gère, on va t'emmener à l'hôtel. J'en dis d'accord, bah alors est-ce que je peux savoir de quel hôtel on parle? Parce que moi j'avais compris que j'allais rester soit au bureau, soit on a ce qu'on appelle une guest house. Donc je me sentais plus en sécurité si je pouvais rester avec les collègues. Et m'explique, non, on va te mettre dans un hôtel, t'inquiète pas, on met tous les autres collègues quand ils viennent, on les met là-bas. J'avoue que je ne suis pas très rassurée. J'appelle le chef de bureau à Bangui et je lui dis, écoute, ce n'est pas du tout ce qui m'a été expliqué au début. Je ne suis pas très à l'aise. Et puis bon, il me rassure, etc. Je dis, OK. Puis ensuite, le chauffeur me dit, Agir, je te laisse les clés du véhicule parce que s'il se passe quelque chose, tu pars avec le véhicule. Et à ce moment-là, et tu sais, c'est des grosses jeeps. Et je lui dis, mais attends, mais non, attends, là, vous êtes en train de m'effrayer, je
Ce
comprends
plan-là.
pas du tout, c'est pas, je
Ouais.
suis pas pour ça. Il faut m'expliquer. Il me dit non, non, mais c'est juste la procédure habituelle. Et surtout quand on a des staffs qui viennent de l'extérieur pour leur sécurité, s'ils ont besoin de partir, il faut qu'ils partent. Il faut qu'ils partent. Et à ce moment-là, je commence à me poser véritablement de vraies questions. Et donc, on m'amène à l'hôtel et je rappelle le chef du bureau. Je lui dis, écoute, je ne suis pas rassurée du tout, surtout par ce que j'entends. Il me dit, bon, écoute, bah, je vais laisser le chauffeur, il va dormir aussi à l'hôtel. Je dis, OK, bon, ça va, parce que de toute façon, je ne pourrais pas conduire ce véhicule. Et puis, il y a une seule route, comme je disais, il y a une seule route qui te ramène vers la capitale, et je n'ai aucune idée de cette route. Et puis, c'est une route, en plus, c'est des routes de terre qui ne sont pas construites. Donc, c'était juste pas du tout gérable pour moi. Émotionnellement, ça devenait difficile. On m'a mis à l'hôtel. J'avoue que j'avais pas dormi cette nuit, j'avais pas dormi, et puis il y avait pas mal d'agitation à l'extérieur. Sauf que à ce moment-là aussi, je pense à ma propre sécurité, mais aussi je pense aux collègues. J'ai pas envie de les mettre dans des situations aussi qui seraient difficiles, juste parce que je suis pas capable de gérer mes propres émotions. Donc ça a été une nuit très très difficile, très agitée. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Et au moment du lever du soleil à 6 h du matin, je suis partie taper à la porte du chauffeur et je lui ai dit ben, on y va, on part. On part et on va à la prochaine destination. Je me souviens que cette nuit a été une véritable angoisse, angoisse pour moi. Donc, il y a eu des petits moments comme ça où je pense qu'il y a eu de la peur du fait d'un environnement très incertain, plus incertain qu'habituel. Parce qu'on est habitué à gérer des situations où tout est incertain, mais il y avait des moments où c'était beaucoup plus incertain. Et donc, oui, il y a eu des moments de petite panique. Mais alhamdoulillah, j'ai jamais été affectée. J'ai pas le souvenir d'avoir été affectée directement ou être menacée. Tout ce qui se passait et tout ce que j'ai pu entendre ou voir, c'est véritablement à l'extérieur. Donc, parfois, on ressent une hostilité de la communauté. Donc, on nous dit, il faut partir. Ouais, ben, on a les groupes armés juste à l'extérieur du lieu de résidence qui sont en train de se tirer dessus. Donc, on nous demande de rester en hibernation, etc. Donc, il y a des
Et
situations
carrément,
comme
tu
ça.
avais par la fenêtre, tu pouvais voir des fois des conflits.
Il ne fallait pas s'approcher des fenêtres. Donc, dans ces moments-là, en général, en fait, ce qui se passe, c'est justement pour la sécurité, c'est que la façon dont les guest houses ou ce qu'on appelle des compounds, des lieux de résidence, c'est assez clos. C'est clos et c'est fermé, justement, où il n'y a aucune visibilité. L'extérieur n'a pas de visibilité sur ce qui se passe à l'intérieur et on n'a pas de visibilité sur ce qui se passe à l'extérieur.
D'accord, très bien. Dans ces moments-là, est-ce que tu racontais tout à ta famille, j'imagine, enfin, presque tout, ou tu essayais de cacher des choses quand tu voyais que c'était trop dangereux?
Non, ça a été déjà les communications avec ma famille quand j'étais déployée, je les réduisais au minimum. C'était plus pour leur dire je vais bien, du genre je vais bien, je suis en vie, hein, alhamdoulillah. Ça s'appelle demain, inchallah. Donc ça n'a jamais été des conversations longues, déjà parce que aussi il y avait des problèmes de connexion, d'internet, etc. Donc c'était pas idéal. Et surtout, je voulais pas les inquiéter. Et puis même quand je repartais à Dakar, où peut-être les conditions de vie étaient beaucoup plus agréables et il y avait une certaine sécurité, non, j'ai jamais partagé ces informations. Je ne suis jamais rentrée dans les détails avec ma famille, avec ma mère notamment, parce je voulais certainement pas l'inquiéter.
Ouais, mais ils se rendaient compte de la, ben, ce que tu faisais techniquement, ou pour eux c'était juste un voyage.
Non, il le savait, et je pense qu'à un moment, surtout, oui, non, il le savait parce qu'il voyait un petit peu l'information, il comprenait qu'il y avait des choses qui se passaient. Ou par contre, parfois, je leur racontais un petit peu des histoires d'une mère, de famille, ce qu'elle a enduré, etc. Donc, il comprenait à travers ces récits que les choses n'étaient pas évidentes. Il y a eu aussi des moments, peut-être c'était un peu plus simple pour ma famille, quand je leur disais que j'allais en Irak, etc. Là, oui, c'était un petit peu. Je pense qu'ils avaient une meilleure compréhension de ce qui se passait en
Ouais, t'as
Irak.
fini par y aller en Irak, du coup.
Oui, j'avais fait des déploiements et c'est pour ça que j'avais envie d'être établie là-bas. J'avais apprécié l'équipe, j'avais apprécié le travail en fait qui se faisait là-bas. Quand il s'agissait du Moyen-Orient, oui, ils avaient une meilleure compréhension de ce qui se passait. Peut-être parce qu'il y a une certaine connexion avec le monde arabe aussi.
Ouais.
Mais non, j'essaie de pas trop leur dire, mais je sais qu'à un moment, ils s'impatientaient que je prenne la décision de rentrer vers les États-Unis ou de rentrer en France. Et donc, effectivement, quand je suis repartie aux États-Unis après 2 années en Afrique de l'Ouest, ils étaient soulagés.
Ouais. Dans certaines zones, je ne sais pas en Afrique si c'est la même chose, mais en tout cas au Moyen-Orient, en Irak, même Pakistan, tout ça, même si ce n'est pas forcément toutes les zones de guerre, je sais que parfois, enfin, quand on veut se déplacer dans certains endroits, même si on est juste un touriste, on doit être accompagné par des militaires ou des gardes, etc. Toi, c'était tout le temps ça.
Les organisations ont différentes approches vis-à-vis de ce qu'on appelle des escortes militaires ou des escortes de sécurité, notamment d'entreprises privées. Alors, tu as les pour et contre. Et j'ai travaillé pour les deux. Donc, par exemple, dans le cas de mon déploiement au Niger, je travaillais pour une organisation qui n'était pas contre l'escorte militaire. Et donc, quand j'avais été déployée dans le sud du Niger, à la frontière du Nigeria, là où il y avait l'insurrection de Boko Haram, donc on avait une mission, on devait aller sur un camp de déplacés, déplacés de personnes qui avaient fui Boko Haram. Et là, on avait l'escorte, c'était une escorte militaire de force locale qui était sous-équipée. Et là, pour le coup, et donc pour moi, je considérais qu'on était exposé juste par le simple fait. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez un petit peu le convoi, c'est que on a les organisations humanitaires, les voitures, les véhicules de l'organisation, et puis devant et derrière, on a les véhicules des militaires, et donc ça avance. Sachant que Boko Haram visait
Ouais.
les militaires, je trouvais pas que c'était une bonne idée, mais c'était la procédure. Et c'était l'approche que cette organisation avait décidé de suivre. Donc à ce moment-là, oui, je me suis dit, en fait, enfin, pour moi, c'était pas idéal. Mais enfin, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on suit un petit peu la procédure de l'organisation. Et par contre, en Afrique, quand j'étais déployée en Afrique de l'Ouest avec l'organisation, le Conseil norvégien pour les réfugiés, eux, ils étaient complètement contre l'utilisation d'escorte militaire ou de sécurité pour exactement les raisons que je viens de citer, pour eux, ils estimaient, et j'estime aussi, que ça faisait courir un risque supplémentaire aux humanitaires s'ils étaient accompagnés par ce qui est considéré en fait des parties du conflit armé. Très souvent, les militaires sont eux-mêmes partie du conflit dans ces pays. Et donc, les humanitaires deviennent des cibles potentielles par extension quand on est accompagné. Donc, il y a eu un peu les deux. Et dans le secteur humanitaire, il y a véritablement deux approches.
Et toi, tu devais mettre une sorte de gilet pare-balles, pas forcément, non?
Non, j'ai jamais eu. Non, j'ai jamais eu à mettre un gilet pare-balles ou un casque. Non, je n'ai pas le souvenir.
D'accord. Dans la plupart des pays que tu as visités en tant qu'humanitaire, reporter humanitaire, c'est des pays musulmans, donc le Niger, tu as dit, Centrafrique, je ne sais pas, c'est si c'est majorité musulmane.
Il y a une communauté, c'est mix.
L'Irak, etc. Le fait d'y aller en tant que musulmane aussi, est-ce que ça apportait quelque chose ou non, ça apportait pas spécialement quoi que ce soit?
Mais pour être très honnête, c'était une époque déjà où je portais pas le voile, donc c'était pas évident. Et si j'étais musulmane ou pas. En revanche, quand j'arrivais dans les pays musulmans, en Irak, Jordanie, Égypte, etc., quand on travaille avec les déplacés, Yémen aussi. Là, pour le coup, Yémen, ouais, je portais le voile, donc ça a été une expérience différente. C'était l'année dernière. Immédiatement, il y a une connexion qui se crée. Bah, déjà, il y a une connexion qui se crée via la langue, parce que j'essaie au mieux, même si effectivement je parle un arabe dialectal, qui est l'arabe tunisien, j'essaie toujours de communiquer en arabe avec eux, et je pense qu'il y a une connexion déjà qui se crée immédiatement. Et puis ensuite, effectivement, à travers la conversation, etc., ils réalisent que je suis musulmane, et donc effectivement, il y a ce lien qui se crée, et il y a un sourire. Qui se dessinent sur leur visage, et une source de confort un petit peu. En Afrique de l'Ouest, c'est un petit peu différent. Je ne pense pas que ça a percuté, pour être très honnête. Ça n'a pas été la même expérience. Et surtout, je dirais, et là, c'est plus du tout le volet religieux, mais je dirais que c'est plutôt, même si je leur disais, écoutez, en fait, je suis de l'Afrique du Nord, je suis tunisienne, et puis dans les pays dans lesquels il y avait une communauté musulmane, je suis aussi musulmane, etc. Ça percutait pas. Il fallait beaucoup plus de temps pour créer ce rapport avec les communautés. Là où ça bloquait par moment, c'est que pour eux, en fait, j'étais française. Et je représentais la France, donc je représentais un pays avec lequel ils n'étaient pas forcément en accord. Et des dernières années, les choses se sont véritablement dégradées entre pas mal de pays africains et la France. Et donc ça, je le ressentais. Je le ressentais, c'était beaucoup plus difficile à créer ce rapport. Et je sais que, par exemple, quand j'avais été au Mali, parce que j'avais un passeport français, je n'avais pas été autorisée à visiter le centre et le nord du Mali. C'était devenu, voilà, c'était juste un gros risque. Et donc, j'avais pas pu faire ce... J'étais restée à Bamako.
D'accord. Ouais, c'est vrai que les choses se sont vraiment dégradées là, ces dernières années. Ça doit être assez risqué maintenant même pour les Français dans certaines zones de voyager. Tu parlais du port du voile, donc je vais rebondir dessus. On en discutait il y a quelques semaines au téléphone. Tu m'avais dit que c'était aux États-Unis, hein, peut-être que tu avais réussi à te reconnecter à l'islam. Est-ce que tu peux nous raconter cette expérience?
Oui, alhamdoulilah. Je sais que ça surprend beaucoup de gens quand je leur dis qu'en fait, je me suis retournée vers l'islam quand je suis partie aux États-Unis.
Je ne suis pas surpris personnellement.
Je pense qu'effectivement, quand on y va et quand on réalise en fait de l'intérieur les mentalités, on y repense. Mais effectivement, en fait, bon, mon expérience a été s'est concentrée sur New York et Washington et dans un premier temps à New York. Effectivement, quand on parle aux Américains, ils nous disent, bon, New York, c'est différent du reste des États-Unis. C'est vrai, c'est vraiment un mini monde, très cosmopolite, diverse, où les gens sont accueillis assez rapidement. Et on arrive à se fondre dans la masse de façon naturelle. Malgré nos accents, malgré nos différences, etc. Et c'est quelque chose que j'ai adoré à New York et que j'avoue qui manque énormément quand j'y suis pas. Et donc la première année quand j'arrive à New York, je connaissais personne. Et je me dis, mais en plus c'était difficile de se faire des amis parce qu'aux États-Unis, enfin moi je venais de France et le concept de l'amitié en France, il était aussi différent du concept américain. Aux Américains, il y avait beaucoup hangout, viens on traîne ensemble et ensuite on se voit pas pendant 6 mois, etc. C'est très typique des Américains, donc c'est très difficile de former des amitiés solides aux États-Unis. Donc j'arrivais pas à me faire un cercle d'amis en fait. C'était des gens que je rencontrais, mais en fait, qui disparaissait ensuite pendant 3, 6 mois. Et donc, je me sentais seule. Je me suis dit, bah, en fait, il y a peut-être un dénominateur commun ici qui est ma religion. Et donc, il est très probable que je vais retrouver des gens qui ont ma religion ici. Et donc, j'ai commencé à faire quelques recherches. Je me suis tournée vers des mosquées. J'en ai visité quelques-unes. Et puis, ensuite, j'ai trouvé le centre islamique de NYU, de l'Université de New York. Et ça a été une expérience formidable en fait. Ça a été une communauté qui m'a accueilli à bras ouverts et qui accueille en fait tout musulman et je dirais même non musulman en fait. Et donc j'ai véritablement redécouvert un islam pratique, un islam que je pouvais mettre en application au quotidien. Donc j'ai commencé à aller aux mosquées, à participer à la prière du vendredi, à écouter les sermons. C'était les premières fois où je priais dans une mosquée avec la communauté. C'était ma première fois où je priais le tarawih dans une mosquée. Et donc, ça a été une expérience incroyable. Je me suis fait un joli groupe d'amis musulmans aussi. Et donc, progressivement, mon intérêt pour l'islam, c'est accentué et je me suis sentie à l'aise avec mon identité musulmane. J'ai réalisé que j'avais pas besoin de choisir. J'ai aussi réalisé qu'il y avait énormément de musulmans aux États-Unis qui réussissaient, qui étaient très bien intégrés. Et ça, c'était quelque chose que je ne voyais pas en France. Mon identité musulmane dans le marché du travail américain n'a jamais été remise en question. Elle n'a jamais été pointée du doigt. Et ça, c'était des choses qui me surprenaient. Et les opportunités que j'ai eues aux États-Unis, que ce soit même ce qu'on appelle public speaking, de parler, d'intervenir sur
Oui, prise de
des
parole en
endroits
public.
publics,
Ouais.
etc. Et je me suis dit, mais probablement, ça aurait été très, très difficile en France. Et ici, prise de parole, pas dans des événements musulmans, c'est vraiment pour des événements séculaires, hein. Et donc, effectivement, j'ai eu ce regain d'intérêt pour l'islam. Je trouvais qu'aussi les imams et les prêches, comme je disais, sont très très pratiques. C'était pas du théorique. Ça résonnait. C'est tout ce qui se disait, je pouvais sortir et le mettre en application dans ma vie au quotidien ou véritablement y réfléchir et voir comment le mettre en quotidien. Et c'était aussi. Alors, je sais pas si c'est mon expérience en France, mais en tout cas, c'était un islam tolérant. C'était un islam où, oui, il y avait la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'était pas ça, les serments, les prises de parole d'imams et de personnes de savoir ne se concentraient pas sur la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est une chose à laquelle j'ai été beaucoup exposée en tant qu'enfant et en tant qu'adolescente, où tout était haram et Allah, c'est celui qui va te punir. Et donc, ça ne me donnait pas véritablement envie. Et effectivement, là-bas, ça a été une expérience totalement différente. Effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala, il faut le craindre, mais Allah subhanahu wa ta'ala est aussi miséricordieux et généreux.
Donc tu as appris à aimer, à plus aimer Allah, à la religion, à travers un discours plus positif peut-être et plus pratique. Je pense que il y a beaucoup de personnes, enfin moi en particulier aussi, j'ai pu découvrir la dawa anglo-saxonne même, je pourrais dire, assez jeune, et c'est vrai que ça a été très utile dans mon développement et dans ma compréhension de la religion, d'écouter ce genre de prêche, de discours, même en ligne, tu vois. Et ouais, enfin, je pense qu'il y a un décalage entre ce qu'on, enfin, si on fait une moyenne, hein, bien sûr, il y a toujours des exceptions, entre l'islam en France et même dans les pays, voilà, la région, et l'islam qu'on peut retrouver, pas de partout, hein, mais dans les pays anglo-saxons. Et voilà, je pense qu'il y a du bon de partout, mais j'ai trouvé beaucoup de bon dans ce qui est enseigné, le côté pratique, comme tu dis. Le fait que souvent les personnes qui font les prêches, c'est des Américains, c'est des locaux souvent, donc c'est pas des personnes qui sont importées de l'étranger ou qui parlent une langue cassée, qui ont l'expérience du terrain, enfin qui travaillent, qui sont des locaux quoi, qui ont grandi, qui ont étudié et qui donc avec lesquels on peut se reconnaître. Et puis peut-être c'est le côté aussi américain ou anglo-saxon qui fait qu'on se focalise ou sur l'aspect pratique. Moins sur la théorie.
Oui.
Donc ouais, je te remercie pour ton retour, Hadjer. Peut-être un petit mot sur ce que tu fais actuellement. Donc après Washington, donc tu... Non, après New York, donc New York, Washington, puis New York, puis ensuite tu as fait tes 2 années un peu partout, là, à vagabonder partout, en Afrique de l'Ouest. Et maintenant, donc tu es établi aux Pays-Bas. Donc tu peux nous raconter un peu ce que tu fais. Est-ce que tu fais toujours des... Bah, je pensais que tu avais arrêté les voyages, mais tu m'as dit que tu es allé au Yémen l'année dernière. Donc, c'est quoi un peu ton rôle actuellement?
Oui, j'ai rejoint les Pays-Bas en 2022 parce que j'ai rejoint une organisation non gouvernementale américaine qui s'occupe de la protection des populations civiles en zone de conflit. Et donc, je suis directrice de communication. Donc, encore une fois, le travail que j'ai fait en tant que journaliste me sert énormément jusqu'à l'heure actuelle. Puisque le travail de la communication englobe beaucoup de choses, comme les relations presse, l'écriture de contenu, la création de contenu, la mise en avant de crises et comment transmettre ces crises vers le public, etc. Donc, je suis venue ici il y a 2 ans, aussi parce que je voulais me rapprocher de ma famille qui réside en France, sans forcément retourner vers la France, où le climat politique et social n'est pas très, très en faveur des musulmans. Et puis, c'était quoi la question, Abdelrahman?
Et du coup, bah, qu'est-ce que tu fais enfin, c'est quoi ton quotidien là? Est-ce que tu voyages? Parce que tu m'as dit que tu voyageais aussi au Yémen et tout.
Alors, j'ai essayé de réduire les déplacements, pour être honnête, parce que effectivement, ce sont des déplacements assez lourds. Ce sont des déplacements assez lourds pour plusieurs raisons, parce que des fois, pour accéder pour aller dans ces pays, c'est pas aussi simple qu'on le croit. C'est pas un vol direct ou même un vol avec une connexion. Par exemple, le Yémen, on avait mis plus de 24 heures pour y aller. Oui, on part d'ici, on arrive en Éthiopie. En Éthiopie, on a passé la nuit à Addis Abeba. À Addis Abeba, on prend un avion des Nations Unies. Et puis, le Yémen, c'est aussi un pays difficile d'accès. Donc, c'est pas, c'est, ce sont des voyages qui fatiguent physiquement. Et ensuite, quand on arrive là-bas, encore une fois, c'est physiquement, ça peut être assez lourd, mais il y a toujours cette tension aussi. Il y a toujours cette tension. Quand je suis arrivée à Aden, c'est là-bas où j'étais, je ne pense pas avoir vu un bâtiment qui n'était pas criblé de balles, les impacts de balles. Toujours des bâtiments détruits, donc les vestiges un petit peu de la guerre qui avait démarré il y a à peu près 9 ans au Yémen. Et puis ensuite, ces populations déplacées qui n'ont absolument, qui après 9 ans, c'est quand même assez effarant. Ils n'arrivent pas à se relever. Donc oui, je fais toujours des déplacements, mais j'en fais un petit peu moins. J'essaie de les limiter parce que physiquement, ça me demande beaucoup. Émotionnellement, ça me demande beaucoup. Et aussi, en fait, quand on arrive dans des jobs plutôt de haut niveau, directeur, etc., on a des équipes à gérer. On a beaucoup plus de responsabilités. Donc, je peux pas me retrouver à balader aux quatre coins du monde parce que j'ai aussi du travail qui m'attend au bureau. Et donc, il faut que je gère un petit peu les deux. Donc, j'essaie de conserver un pied sur le terrain autant que possible, tout en essayant d'assumer mes responsabilités de directrice.
D'accord, donc maintenant tu gères une équipe, ça a évolué depuis quand tu as commencé, donc tu as des personnes que tu gères qui vont eux sur le terrain ou comment ça se passe?
Oui, elles vont sur le terrain et puis aussi dans les équipes que je gère, c'est des personnes qui sont déjà sur ces zones, sur
Ah
ces pays.
d'accord, donc des locaux peut-être?
Exactement, en Irak, Yémen, Ukraine, etc.
D'accord, ok, c'est cool. On arrive vers la fin du podcast. Adèle, on va essayer de poser quelques questions de fin. Avant ça, j'avais peut-être une question aussi qui me venait en tête parce que c'est dans ce genre de métier qui sont très prenants. On voyage beaucoup, donc j'imagine tu en retires beaucoup de positifs. Côté négatif, j'imagine que tu as dû faire aussi beaucoup de sacrifices à voyager un peu partout comme ça, donc en termes de stabilité de vie, etc. Est-ce que tu as peut-être un mot à dire à ce sujet? Et aussi, enfin, je finirai aussi sur la partie des conseils pour ceux qui veulent faire, qui sont intéressés par ce type de parcours, si tu as un mot à leur dire aussi.
Je pense qu'il faut être. On peut se préparer, mais il faut laisser une place à l'incertitude dans ce genre de métier. Mais après, il faut aussi comprendre les implications d'un métier pareil. Je pense que je ne sais pas si j'ai réalisé dès le début les implications, par exemple, que c'est très difficile d'avoir une vie personnelle. Et alors oui, quand j'avais la vingtaine, même début trentaine, c'était sympa. Mais ensuite, le temps passe et on n'en prend pas conscience parce qu'on est dans le truc. Et donc, ça devient beaucoup plus difficile de se poser, d'avoir une vie de famille. Et ça, je l'ai réalisé peut-être un peu trop tard. Et donc ensuite, il faut rééquilibrer, il faut faire les ajustements quand on arrive déjà. Moi, j'ai commencé à prendre conscience peut-être qu'il fallait lever le pied et fallait penser à avoir une vie de famille, une vie personnelle quand j'avais 35 ans. Et donc c'est pas évident de faire ces choses-là quand on arrive à l'âge de 35 ans, il faut être honnête. Voilà, en tout cas, ça a été mon expérience personnelle. Donc je dirais, c'est vraiment dès le début de comprendre les implications d'un tel travail, de savoir qu'il va y avoir énormément de sacrifices et est-ce qu'on est prêt de faire ces sacrifices et le coût de ces sacrifices sur le long terme. Il faut aussi en prendre conscience. Ensuite, peut-être, je dirais, et là, c'est vraiment plus pour les femmes musulmanes, c'est Ça peut nous demander beaucoup, effectivement, peut-être beaucoup plus du fait de nos pratiques. Et ce que je veux dire par là, c'est que en tant que femme musulmane, peut-être l'aspiration, effectivement, c'est oui de combiner carrière, mais d'avoir cette vie de famille. Et donc, peut-être ça va fonctionner pendant un petit moment, mais ça va pas fonctionner tout le temps. Donc, il faut prendre conscience de ces choses-là. Je suis tombée. Je sais pas si je dirais que je suis tombée dans le panneau un petit peu, mais peut-être oui un petit peu. J'ai cru à cette idée que pour réussir dans sa carrière, il fallait tout sacrifier pour la carrière. Et aujourd'hui, je dirais surtout aux femmes qui sont dans leur vingtaine que non, c'est pas nécessaire. Il faut arriver à trouver cet équilibre. Et je pense que c'est important de préserver cet équilibre. Je pense que oui, ça peut faire rêver pendant 2 années ou 3 d'avoir ce genre de travail. Mais en tant que femme musulmane, est-ce que c'est vraiment ce que j'aimerais faire tout le reste de ma vie? Non, j'aimerais avoir une famille aussi. Et ça, forcément, ce n'est pas forcément toujours compatible avec le travail que je fais. Donc il y a beaucoup de remises en question et de réflexions à faire.
Je te remercie beaucoup pour Rachel pour ce partage. Je sais que c'est pas facile à faire ce type de partage, mais en tout cas, je suis sûr que ça va être super utile à beaucoup d'hommes et de femmes, hein. Je pense que bon, j'ai pas ton expérience, mais parfois on est leurré un petit peu par dans tout type de carrière, hein. Voilà, moi je connais des personnes qui travaillent en tant qu'entrepreneur à temps plein, avocat, enfin des métiers qui sont très prenants où on n'a pas le temps en fait. On n'a pas le temps et en fait, voilà, le fait de savoir dans quoi on se lance, c'est important parce qu'on ne se rend pas forcément compte quand on est étudiant, quand on a début de vingtaine. Donc, merci beaucoup pour ce partage. Et pour ceux qui sont intéressés, malgré tout ce que tu as dit, pour se lancer dans ce type d'activité, dans l'humanitaire, etc., est-ce que tu as des conseils? Numéro un, et numéro deux, est-ce que tu as des conseils pour faire ça peut-être d'une manière plus, avec une vie plus équilibrée, je ne sais pas, pour ceux qui sont quand même passionnés par ces thématiques?
Et ce que j'ai dit, ce n'est pas du tout pour décourager, mais c'est pour vraiment prendre l'ampleur des choses, être assez réaliste par rapport à ce que ce travail demande. Parce que moi j'aime beaucoup ce travail, hein, mine de rien. J'en suis passionnée et en tant que musulman, c'est aussi en adéquation avec la sunna de notre prophète, c'est Mohammed sallallahu, mais aussi les enseignements coraniques, de pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin, de pouvoir prendre position contre l'injustice. Donc toutes ces choses-là, moi qui travaille sur, donc encore une fois sur les zones de conflit, sur le droit de la guerre, le droit de la guerre dans le Coran, il est assez clair, et ensuite il a été clarifié par la sunna. Donc toutes ces choses-là, pour moi, sont pas détachés de ma foi. Et donc, je me dis au quotidien que ce que je fais aussi, je le fais pour servir Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a aussi cette intention. Donc, l'intention est très, très importante aussi. Ensuite, pour ceux et celles qui veulent suivre ce parcours, il y a plusieurs voies. En fait, c'est pas, il n'y a pas une voie première. Ce que je dirais, c'est véritablement d'essayer d'identifier les organisations et le type de travail humanitaire qui nous intéresse, parce qu'il y a beaucoup de domaines dans le travail humanitaire. Ça peut être la protection des populations civiles, ça peut être construire des abris, ça peut être tout ce qui est le domaine de la santé, ça peut être le domaine de la protection des femmes et des enfants. Donc il y a beaucoup de domaines au sein de l'humanitaire, et je pense que c'est important de pouvoir définir quels sont nos préférences, quels sont nos centres d'intérêt. Ensuite, définir aussi est-ce qu'on veut travailler pour une organisation islamique uniquement ou une organisation séculaire. C'est séculaire qu'on dit ou
Ouais,
laïque
je pense, c'est vrai, on dit ça, ouais, je pense. Mais bon, c'est pas grave, ils comprendront les gens.
Donc ça, c'est important de pouvoir le déterminer aussi. Et puis déterminer est-ce qu'on veut faire ce travail sans forcément voyager, c'est possible. Et donc dans ces cas-là, c'est soit le faire à distance depuis la maison, puisque maintenant on a beaucoup de flexibilité par rapport au travail, ou alors par rapport à partir du bureau. Si ce n'est pas le cas, ben dans ces cas-là où effectivement il y a des déplacements, ou alors être totalement déployé dans le pays et rester sur une longue durée dans ces pays-là. Donc il y a beaucoup de choses, de questions auxquelles il faut répondre avant de pouvoir s'orienter. Et en fonction de ces réponses, on peut commencer les recherches et savoir vers quelle organisation s'orienter et voir quelles sont les opportunités. Une façon de commencer, c'est le volontariat, mais pas toutes les organisations le proposent. Donc, des missions courtes de consultants, ça se fait de façon très fréquente, surtout quand les organisations n'ont pas forcément les financements pour du long terme. Donc, peut-être ça va être une période de 6 mois, mais ça donnera suffisamment de temps aux personnes de savoir est-ce que c'est quelque chose qui leur plaît ou pas. Il y a pas mal de cours en ligne aussi qui se font, donc je pense que c'est bien aussi de pouvoir faire quelques cours en ligne pour avoir certaines bases par rapport à ce qu'est le monde humanitaire. Un réseau que j'utilise énormément, je ne sais pas en France si les gens l'utilisent énormément, peut-être oui, peut-être que non, je ne sais pas. C'est LinkedIn, mais c'est très très
Ouais, on
utile.
l'utilise. Ouais, c'est très utilisé en France aussi, maintenant.
Professionnel. Donc, véritablement, si c'est quelque chose qui vous intéresse, connectez-vous avec les chefs de bureau. Les équipes sur LinkedIn, en général, les gens sont assez faciles à approcher. Et je pense que c'est une bonne façon de commencer. Il y a aussi un site qui s'appelle Relief Web, Relief Web, Web. Et ce site, il y a pas mal d'offres d'emploi. Il y a uniquement des offres d'emploi, en fait, qui sont liées au monde humanitaire. Ça peut être aussi très utile si vous êtes en recherche d'emploi dans le secteur humanitaire.
Trop bien. Ben, je mettrai le lien en description. On va finir par quelques petites questions, du coup. Qu'est-ce que tu préfères dans ton quotidien, dans ton travail? Qu'est-ce qui t'anime tous les jours?
C'est une très bonne question parce que toutes les journées sont différentes. Ce qui me donne de la satisfaction dans mon travail, ça va dépendre des journées. Si je suis déployée et que je suis sur le terrain, c'est véritablement le contact avec les populations, les voir, passer un petit peu de temps et pouvoir écouter et voir de quelle façon on peut essayer de faire changer les choses. Et puis, si je suis au bureau, c'est véritablement la prise de décision, parce que ça peut être très difficile dans des organisations pareilles de pouvoir arriver à un consensus et donc prendre des décisions sur des sujets assez délicats, mais sur lesquels on décide d'adopter des positions fortes. Par exemple, le conflit à Gaza, ça c'est un exemple. C'est quelque chose qui a été. Il y a eu énormément de discussions en interne pour adopter, pour se mettre d'accord sur quel langage utiliser, etc. Et donc, ce qui me satisfait, c'est quand on adopte du langage fort, fort et courageux pour pouvoir adresser ces problèmes. Et forcément, ce qui ne me satisfait pas, c'est quand on est un petit peu trop sur nos gardes ou trop dans la retenue.
Oui. Et donc, par rapport à ça, ça a dû être difficile. T'as dû avoir, enfin, vous avez dû avoir peut-être beaucoup de négociations qu'il y a dû avoir.
Oui, il y a eu beaucoup de négociations. Alors après, et sur des sujets pareils, en fait, il faut comprendre que ça sera le résultat d'un consensus et qu'il va falloir satisfaire au maximum les personnes qui représentent l'organisation, qui travaillent pour l'organisation. Il faut tenir en, faut tenir, on tient compte de plusieurs paramètres. Y compris quand on émet des positions, on met en place des communiqués, qu'on ne ferme pas les portes. C'est-à-dire que des fois, si on va trop fort et on tape sur quelqu'un trop fort, sur un gouvernement par exemple, le risque c'est qu'on va fermer la porte au dialogue. Donc il faut trouver cet équilibre où on tape assez fort, mais que cette porte reste ouverte.
C'est noté. Quelle est la compétence qui, toi, t'es le plus utile ou qui t'a été le plus utile dans ton travail?
Je pense que mon travail de journaliste et ma capacité de pouvoir détecter de quelle façon le cycle de l'actualité va évoluer me sert énormément dans mon travail à l'heure actuelle.
Ouais, ça c'est quelque chose d'inné ou tu t'es formé par rapport à ça, tu lis beaucoup, comment?
Et oui, voilà, je suis constamment connectée à l'actualité, en fait. Et donc, je pense que de façon progressive, on arrive un petit peu à déceler qu'est-ce qui va se passer, comment quelles pourraient être les réactions, etc., la tournure des choses. Ouais.
Et les magazines, les médias que tu suis le plus, c'est quoi?
Ça reste assez varié et je suis beaucoup, j'écoute beaucoup de podcasts plutôt pour apprendre à les grosses publications. Et j'avoue que je suis très. C'est essentiellement tout ce qui est médias anglophones à l'heure actuelle. Oui, c'est de la BBC, du NPR, Washington Post, New York Times, Al Jazeera, Middle East Eye et toutes ces publications.
Classique. Ok. Est-ce que tu as, malgré la vie que tu as, où ça bouge pas mal, même un peu moins en ce moment, mais est-ce que tu arrives à avoir des routines qui te permettent de garder l'énergie, de progresser?
Oui, alhamdoulillah. Oui, j'ai véritablement. Je suis assez structurée sur mes journées. Déjà, il y a tout ce qui est tout le côté religieux, donc mes prières, la lecture du Coran, l'écoute et le visionnage de lecture.
De prêche,
J'essaie d'aller à la salle de sport de façon régulière le matin après la prière de Salat al-Fajr et avant le début de ma journée de travail. Maintenir une activité physique aussi, c'est très important. Ces deux aspects sont quasi quotidiens et ça me permet de maintenir un équilibre entre le spirituel et le physique.
oh bien. Est-ce que tu as une recommandation de livres ou de podcasts, tu parlais de podcasts qui t'ont marqué?
Oui, il y en a beaucoup et peut-être un podcast que j'apprécie, c'est The Thinking Muslim.
Ouais, je connais.
C'est un podcast que j'aime beaucoup.
Très bien. Écoute, je mets ça en description. Et enfin, dernière question. Si un auditeur ou une auditrice a une question à te poser, voilà, elle a bien aimé le podcast. Elle souhaite te faire un feedback ou bien une question. Est-ce que c'est possible?
Oui, bien sûr. Je pense que LinkedIn, c'est un bon médium de communication.
Très bien. Je mettrai ton LinkedIn. Bah écoute, on a un peu dépassé le temps. Je suis désolé. En tout cas, c'était un échange passionnant. J'ai appris beaucoup de choses sur le domaine, sur la thématique. Je connais pas, honnêtement, je connais personne qui travaille. Peut-être si je réfléchis, je pourrais une personne, mais voilà. Très peu de personnes qui travaillent dans l'humanitaire qui ont une vraie expérience sur la physique sur le terrain. Et c'est vraiment passionnant. Je pense que j'aimerais beaucoup mettre en avant plus de personnes comme ça. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton temps, pour ton partage, pour ton retour d'expérience. Qu'Allah facilite, qu'Allah te mette la baraka dans tes projets, dans tous tes projets. Et puis voilà.
Merci beaucoup Abdelrahman, merci de l'invitation, ça m'a fait plaisir de pouvoir échanger avec toi également.
Merci beaucoup. Je ne fais pas très bientôt, Inch'Allah. Pourquoi pas si je passe aux Pays-Bas. Et puis d'ici là, porte-toi bien. Salam alaikum.
Salam.
Si cet épisode t'a plu, je te propose de le partager à 3 personnes de ton entourage, à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'Allah mette la baraka dans cette initiative. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.